carnet de voyage. Une invitation. Ooh, can't anybody see?
Bonjour à tous les auditeurs de RCF, nous sommes dans Carnet de Voyage, nous sommes avec Jérôme Bouquemont, bonjour.
Bonjour.
Vous deviez venir avec votre copine qui a fait le tour du monde avec vous, Amandine Fantomi. Elle attend un bébé, donc elle viendra certainement pour une nouvelle émission sur des sons que vous avez fait au cours de ce voyage. Mais il faut dire que c'est un tour du monde de l'éco-habitat que vous avez fait.
Tout à fait.
Comment est né le projet de ce tour du monde ?
Donc avec ma compagne Amandine Fantomi, on travaillait dans les projets de développement territorial. Et l'idée, c'était l'un et l'autre de repartir sur un voyage au long cours. Et on avait eu déjà des expériences de volontariat à l'étranger. Donc on voulait un peu mêler le côté développement territorial, mais aussi avec le côté je travaille, je donne un coup de patte à l'étranger pour passer un peu ce côté de touriste. On voulait un peu être...
acteur du voyage.
Voilà, ouais. Merci.
et aussi, vous vouliez minimiser l'impact du voyageur, quoi.
Voilà. Donc bon, on est parti à vélo, on a essayé de prendre le moins possible l'avion, on a réussi à aller par exemple jusqu'au Japon sans prendre l'avion, ouais. Donc en utilisant c'est principalement le vélo, le train et le bateau. Bon, par la suite on prendra l'avion, c'est des liaisons qui sont beaucoup plus compliquées à faire en bateau ou même à vélo, quand ouais, il s'agit de traverser le Pacifique c'est compliqué. Mais c'est vrai que ça faisait partie de nos projets, donc on a fait une bonne partie du voyage à vélo.
Et vous avez fait l'Europe du Sud, de l'Est, la Russie, le Japon, la Corée, le Mexique, l'Australie, l'Indonésie, la Thaïlande. Donc vous avez fait un maximum. Et je crois qu'il y avait quelque chose aussi qui vous tenait à cœur, c'était d'avoir un œil sur les maisons. C'est comme une sorte de clé de lecture, vous dites.
Voilà. En fait, c'est vrai que bon, quand on voyage, tout un chacun a des centres d'intérêt. Mais j'encourage un peu tout le monde à regarder les maisons dans les pays qu'on traverse quand on voyage. Parce que c'est vrai que c'est une manière de voir un peu comment les gens vivent, avec quoi ils s'abritent ou ils se logent, quels sont les matériaux, est-ce qu'ils sont propriétaires, est-ce qu'ils louent, est-ce qu'ils habitent en famille. Enfin, il y a vraiment un côté... une clé de lecture, c'est ça. On voit un peu plus, on en apprend un peu plus, en tout cas en regardant les maisons.
Justement, l'éco-habitat, c'est sûr que c'est pas très très connu. Il y a une maison à Embrun qui s'appelle le Gabion, un organisme de formation.
Ils forment des artisans à la sauvegarde du patrimoine et au métier de l'habitat écologique.
Ouais, on va voir directement les lieux que vous avez trouvés pendant ce voyage, notamment au Laos, des maisons dans les arbres.
Voilà, ça c'est un projet qui, c'est vrai, qui me tient à cœur parce que il fait beaucoup rêver, mais il est aussi très très pragmatique. Donc on a rencontré un Français qui s'appelle Jean-François Remaud. Pour situer un peu le contexte, c'est un milieu forestier. On est au nord du Laos. C'est un endroit qui est pointé un peu du doigt par toutes les organisations du monde entier parce que donc il y a du braconnage, il y a de la déforestation, des pertes un peu sur le milieu naturel qui sont et qui seront irréversibles. Son idée à lui, donc à Jean-François Remaud, c'était avec une organisation de droit laotien, de faire de ces braconniers des gardes forestiers. Donc son projet était louable. Le problème, c'est que il était constamment entre Paris et Vientiane, accroché à essayer d'obtenir des subventions. Et ça marchait pas tout le temps. On est aussi dans des pays où il suffit pas de faire des lois pour les faire appliquer. Donc voilà, petit à petit, il a eu une idée géniale de rendre son projet viable. Donc en tout cas autonome financièrement, c'est-à-dire d'avoir une protection de l'environnement qui soit complètement rentable. Donc il a voulu accueillir du public tout en limitant son impact sur l'environnement. Pour ça, il a créé un réseau de maisons arboricoles. Donc c'est pas la petite cabane, là on est quand même dans des grosses grosses maisons à 30 mètres du sol.
Ah oui.
Qui accueillent 2 à 10 personnes pour des nuitées, hein. Donc il y a une salle de bain, une douche. On est relié entre les différentes maisons par 7 km de câble. Donc vous imaginez faire en gros 7 km de sentier de randonnée et au-dessus de la canopée. Passer d'une maison à une autre, c'est très impressionnant. Et
c'est un lotissement, c'est des suites résidentielles dans un lotissement. C'est un peu ça.
C'est un peu ça, ouais. Non, je n'atterrirai pas dans ces termes-là, mais ce qui est intéressant dans cette démarche, c'est que il a donc aujourd'hui 70 employés, il a carrément créé des emplois. On voit des femmes là-haut avec les coiffes traditionnelles qu'empruntent les Tyroliennes pour apporter à manger aux touristes. Donc il a aussi également une vision de pas faire d'ethnotourisme. Donc de pas enfermer ces populations locales dans un folklore un peu hein, pour touristes. Là, il leur offre la possibilité donc de parler anglais, d'avoir un métier dans le tourisme. Mais bon, je rappelle la situation. On est au nord du Laos, c'est des populations de montagne qui ont des dialectes, contexte un peu particulier. Donc j'encourage tous ceux qui vont au Laos à y aller. Ça s'appelle The Gibbons Experience. C'est des forfaits de 3 jours et ça permet un peu de découvrir, de méditer et de faire fonctionner, puisque grâce à ça, toute une réserve fonctionne et donc on réintroduit les animaux, on essaye de protéger un lieu qui était en grande partie braconné. Donc voilà le concept.
Ah, c'est vraiment intéressant. Ça s'appelle The Gibbons.
Gibbons. Gibbons, c'est un singe.
Ah oui.
The Gibbons Experience.
Un autre lieu tout aussi surprenant, puisqu'il va être basé sur des déchets, c'est à Portland, je crois.
Voilà. Donc à Portland, c'est un projet que je trouve exemplaire à tout point de vue, parce que, enfin, qu'on trouve exemplaire. Hein, parce que c'est moi qui raconte l'histoire.
Oui, oui,
on a découvert ça à deux. Et dans le cadre d'une association, j'en reparlerai tout à l'heure. Mais donc c'est the Rebuilding Center. Donc Rebuilding Center, ça voudrait dire en français le centre de reconstruction.
Ouais.
Donc en fait, on a rencontré le directeur et on a travaillé avec toute leur équipe pendant une semaine. Le directeur s'appelle Shane Endicott et il nous raconte un peu cette histoire un peu... qui peut sembler un peu
surprenante.
Ouais. En fait, c'est une histoire de quartier. Ça commence comme ça. Ou pour donner un peu de travail à des jeunes délinquants, on va sur des maisons qui détruisent. On va leur faire déconstruire les maisons pour leur dire en gros que les matériaux qu'ils vont revendre, ce sera de l'argent de poche pour eux, quoi. Et donc petit à petit la filière s'est carrément structurée. Aujourd'hui c'est 80 employés. On a différents services, donc des services de déconstruction. Quand ils entendent parler que sur Portland il y a une démolition en cours, ils arrivent avec des devis compétitifs pour ne pas démolir mais la déconstruire. Donc ils retirent les portes, les fenêtres, les clous, les lavabos, etc. Tout ça, ça va dans un grand supermarché, le Rebuilding Center, où tout est vendu de 50 à 90% moins cher que sur le marché des produits neufs. Et tous les jours on reçoit dans ce supermarché je crois entre 4 et 8 tonnes de matériaux. Mais on en revend également entre 4 et 8 tonnes. Donc ça marche du tonnerre. Et la cerise un peu sur le gâteau, c'est qu'ils sont à but non lucratif. Donc tout ce qui, au-delà de développer leur entreprise, toute cette économie sert à organiser des fêtes de quartier ou des événementiels pour s'aider à se connaître les uns les autres. Et également pour aider les jeunes du quartier à monter des projets.
Ouais, donc ils ont une machine à faire du social.
Voilà. Et comme le disait le directeur, ce qui est vraiment intéressant là-dedans, c'est que tout ça, ça n'existe pas en fait. C'est comme il le dit lui-même, c'est des ordures, quoi. C'est-à-dire que c'est 80 employés, c'est une économie qui s'est mise en place, bâtie sur en fait quelque chose qui est normalement destiné à combler les décharges, quoi.
C'est bâti sur quelque chose qui normalement aurait dû rien produire, qui aurait dû être jeté.
Voilà. Et d'ailleurs, il y a un service qu'ils ont en plus qui s'appelle, je sais plus comment en français, mais en tout cas, ils donnent des cours pour apprendre à réutiliser les matériaux, comment faire une porte. Ou une table avec une porte, etc., etc.
Du recyclage, quoi.
Ouais.
On a peut-être le temps de parler d'un troisième lieu qui serait en Australie, où vous avez eu la chance de trouver quelqu'un qui a une théorie pour construire des maisons en paille.
Voilà. Donc là, on est chez John et Suzanne Glassford en Australie. Donc, ce sont des constructeurs, paille, qui développent une technique hybride, c'est-à-dire que nous, chez nous, on fait beaucoup de construction avec une ossature bois. Il y a une autre version qui est connue, c'est la technique Nebraska, où il n'y a pas d'ossature bois. Là, c'est un peu une technique hybride qui développe lui. Donc là-bas, en Australie, sur cette technique, ils ont eu toutes les normes antisismiques, anticycloniques. Ils ont fait tous ces travaux-là. Mais ce qui est intéressant, au-delà de cette démarche donc de constructeur qui revend des maisons avec une garantie décennale, etc., etc., c'est plutôt cette réflexion qu'il va avoir sur la manière de concevoir une maison. C'est-à-dire qu'il faut construire petit, small is beautiful. Il faut construire avec ses moyens. C'est dans une idée en fait de développer. On agrandit sa maison à mesure qu'on a de l'argent à mettre dans cette maison. On fait soi-même. Sa devise, c'est un peu « keep it simple, strong and have fun ». Donc en gros...
Oui, simple, solide et amusant.
Voilà.
Qu'il faut, c'est à taille humaine, en réalité. Il remet la construction à taille humaine.
Voilà, avec des petites techniques. Par exemple, quand on définit les plans d'une maison, un simple tableau pour voir combien d'heures on passe dans chaque pièce et l'argent qu'on va y consacrer. Et c'est des petites choses qui permettent de voir que la chambre d'amis, par exemple, qui est pas forcément rempli, ouais. va nous coûter très cher au final, donc on va peut-être pouvoir payer un hôtel aux copains qui viendront nous voir au lieu de construire une chambre d'amis chez nous.
Ouais, mais ce serait bête quand même de pas avoir la chambre d'amis.
Ouais, c'est des réflexions intéressantes.
Il vaut mieux se ruiner mais avoir la chambre d'amis. Bon, ben, je pense qu'on a fait un petit tour des lieux. On va faire une petite pause et en deuxième partie, on verra les rencontres qui sont tout aussi intéressantes dans ce tour du monde de l'éco-habitat. Rebonjour à tous les auditeurs, nous sommes toujours dans Carnet de Voyage et toujours avec Jérôme Bouquemont dans ce tour du monde de l'éco-habitat. Et une de ses premières rencontres, ça a été au Japon, quelqu'un qui vous offre un vélo.
Donc ça c'est la rencontre un peu probable. En fait, on arrive du Transsibérien, on en a un peu marre d'être lié à cette voie de chemin de fer. En fait, on peut pas faire ce qu'on veut, on est vraiment... c'était intéressant, mais on avait vraiment envie de retrouver la liberté de circuler, quoi. On se retrouve sur le quai d'un énorme port, parce qu'on était arrivé là par bateau, sans avoir aucune idée de par où est-ce qu'il faut aller. On savait juste qu'on devait arriver à une ville qui s'appelait Toyama. En fait, le port était bien plus loin. On était à 30 km de Toyama, mais ça, on ne le savait pas. Ouais. Donc, on se retrouve sur le bord de la route. Petit à petit, les gens qui étaient autour de nous, avec qui on avait beaucoup de mal à partager quelques mots, parce que soit ils étaient russes, soit ils étaient japonais, c'était pas forcément facile. Mais bon, on n'avait pas de... Même si on devient fort au Pictionary, à force. En tout cas, on commence à marcher avec nos sacs le long de la route. Amandine était une vingtaine de mètres devant moi. Là, il y a une belle voiture qui s'arrête. Un japonais qui me demande où je vais. Alors, je lui dis que je vais à Toyama. Il me dit que c'est loin, que mon sac est lourd et que j'aurais tout intérêt à monter dans la voiture. Donc 20 mètres plus loin, je lui demande de s'arrêter. Je dis à Amandine, si tu veux, tu peux venir. Moi, j'y vais en voiture.
C'était gentil de lui proposer.
Donc c'est parti. Petit à petit dans la voiture, donc il nous demande qui on est, qu'est-ce qu'on fait. Notre histoire semble l'intéresser, mais vous savez, quand on arrive dans un pays, on ne sait pas vraiment quels sont les us et coutumes un peu. On ne sait pas comment aborder les gens facilement, quoi. En tout cas, à chaque fois qu'on parlait de notre voyage et de notre recherche de vélo, cette personne nous proposait donc de nous accompagner et de nous aider à trouver un vélo. Donc bon, il nous propose de nous déposer près d'un marchand de vélos. Petit à petit, il fait le tour des vélos avec nous. Ça, bon, il se rend compte qu'il n'y avait pas de vélos comme on le souhaitait. C'était pas des VTT en fait.
Ouais.
C'était surtout des vélos de ville à une vitesse. Donc nous, ça nous convenait pas vraiment. Donc il nous emmène dans un autre marchand. Puis au fur et à mesure, on commençait à être gêné de cette situation, de lui dire, vous savez, merci d'avoir passé du temps avec nous, vraiment. Mais maintenant, on va se débrouiller par nous-mêmes. On commençait vraiment à être gêné, quoi.
Ouais, ouais.
Et lui nous a dit, mais c'est quoi qui vous gêne dans tous ces vélos? Et on lui dit, non, c'est qu'on aimerait avoir un peu de temps, en fait, pour choisir, pour bien se décider. Bon, et de fil en aiguille, il en a conclu qu'en fait, les vélos étaient trop chers pour nous. Mmh. Il a ouvert son portefeuille, il a sorti une liasse de billets. Alors nous, on lui a essayé de lui dire, non, mais vous savez, votre culture, c'est peut-être de très bien accueillir les gens, mais la nôtre, c'est de refuser toutes sortes de cadeaux comme ça, quoi. Mmh. On peut pas accepter ça du tout. On savait pas vraiment ce qu'il fallait faire, quoi. On lui a dit non. On lui a répété 20 fois non. Au final, il a mis l'argent dans une de nos pochettes à vélo. Mmh. Il est remonté dans sa voiture et est parti. Donc on est resté...
Non, mais c'était du blanchiment d'argent. Il avait besoin de deux touristes pour
on
blanchir un peu d'argent.
Vraiment, vraiment étonné et même à la limite déçu de lui avoir dit tant de fois non. Parce que.
Mais à l'arrière de la voiture, il n'y avait pas marqué Yakuza Corporation. Non, c'était pas marqué.
Donc voilà, suite à ça, c'est pas fini. On n'avait toujours pas acheté nos vélos. Hein. On avait donc l'équivalent d'un vélo qui était offert. Mmh. Donc on retourne, on continue à faire nos tours de nos marchands de vélos pour trouver les vélos qu'on voulait exactement, quoi. Et on se rend compte que soit c'est des vélos neufs, soit c'est des vélos de ville, enfin des VTT neufs, mais qui sont hors de prix,
ouais.
Soit des vélos de ville qui nous convenaient pas du tout, quoi. Bon, une technique russe qui marche pas mal, c'est d'attendre qu'il se passe quelque chose. Donc on a attendu.
Ça s'appelle la roulette russe.
Et là, une personne, bon, d'un marchand de vélo qui lui nous avait déjà dit qu'il avait pas de vélo dans les prix qu'on voulait, nous demande qu'est-ce qu'on fait là, d'où on vient, etc. Et en fait, on a fini par lui dire qu'on allait traverser les Alpes japonaises à vélo. Et là, c'était apparemment son grand coup de cœur à vélo.
Ouais.
Et il nous a promis que si on revenait le lendemain à 9h, on aurait deux vélos pour les prix qu'on voulait, à notre taille, etc. etc. Parce qu'ils ont aussi des vélos assez petits. Mmh. Bon, on savait pas s'il avait voulu se débarrasser de nous ou si...
Si c'était magique. Ouais.
Le lendemain, à 9h, on se pointe et il était tout content de nous montrer deux vélos. Et il avait en fait passé la nuit à retaper deux vélos, mais super bien.
Ah ouais.
Et qui nous ont duré jusqu'en Thaïlande.
Comme quoi, la technique russe a du bon. En fait, ces vélos, après, vous en avez fait quoi une fois avoir passé les Alpes japonaises?
On les a pliés, on les a emmenés dans un bateau qui nous a emmenés en Corée. Et ensuite, on est parti en avion au Vietnam. Et du Vietnam, on a été jusqu'en Thaïlande à vélo.
Ah ouais, d'accord. Donc ils ont vraiment servi ces vélos.
Ils ont bien servi. Et on n'a pas eu de problème technique.
Une autre rencontre complètement dans un autre pays, c'est au Costa Rica. Quelqu'un que vous aviez déjà vu, je crois.
C'est ça. Il y a 5 ans, j'étais cartographe dans une ONG. Et on avait un ange gardien qui s'appelait Arcelio, qui nous servait de guide dans la jungle. Enfin, guide, c'est l'ange gardien d'un peu tous les volontaires, quoi. C'était un milieu assez, assez particulier quand on ne connaît pas. Il y a des serpents, des crocodiles.
Ah bah oui.
Et il y avait Fernanda. Fernanda, c'était un peu la maman de tout ce petit groupe de volontaires. Et dans ces endroits-là, moi j'y avais passé 3-4 mois. Quand on part, on espère toujours qu'on se reverra un jour, mais bon, c'est toujours un peu particulier. On n'a pas des vies très parallèles entre un Indien du Costa Rica et un Français qui est là pour quelques mois, quoi. De retour au Costa Rica, je téléphone à l'ONG pour laquelle j'avais travaillé et je demande si cet Indien, Arcelio et Fernanda, ils étaient toujours dans le coin. Et on me donne un numéro de téléphone d'un endroit qui n'était pas très loin de là où on faisait la cartographie. Et coup de chance, bonne étoile, Arcelio, qui n'est normalement pas là, était là le jour où j'ai appelé, et donc on me l'a passé au téléphone. Et évidemment, on s'est donné rendez-vous pour retourner là où on était allé. Donc c'est vraiment une belle retrouvaille. Bon, on l'a quand même attendu une journée et une nuit, parce que ça on n'a peut-être pas la même notion du temps, et jusqu'à ce qu'on entende un cri au fin fond de la forêt. Donc quand on entend un cri, il faut lui faire écho, donc il faut crier aussi. Ça, c'est comme ça un peu qu'on communique en forêt, parce qu'on ne voit pas très loin devant soi. On a attrapé un crocodile, on s'est baladé avec des lianes. Ça fait un peu magique, mais c'est vrai.
Ça fait un peu Tarzan et Jane. Mais un croco, ça s'attrape facilement ?
Ouais, quand on est indien depuis tout petit, sûrement, ouais. Non, mais
ça s'attrape par la queue, non ?
Et au début, c'est une liane qui lui entoure
la mâchoire,
le col.
Ouais.
Ensuite, avec un petit bâton, on l'agite un peu pour qu'il remue la tête. Et dès qu'il a passé la tête dans une sorte de lasso, quoi, on serre fort. On en passe un deuxième un peu plus loin au niveau de la gueule pour la tenir bien fermée. Et puis une fois que ça s'est immobilisé, oui, il faut faire attention à la queue. Ouais.
Après,
le plus important, c'est la gueule, quand même.
Bon, maintenant les auditeurs pourront s'entraîner avec les crocos. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'à partir de tout ça, vous avez accumulé des vidéos et des photos. Et vous allez en faire une expo.
Une belle exposition, normalement sur 3 volets. Le volet habiter écologique, le volet construire écologique, et puis un volet un peu sur tout ce qui est voyage à vélo.
Et ça fera une expo qui sera itinérante.
Voilà, oui, l'idée c'est de faire sur des supports qui puissent être montables et démontables rapidement pour pouvoir la mettre dans différents lieux, les laisser, pourquoi pas faire des débats. On va essayer d'imaginer ça en fonction des lieux.
Il y a également un projet de livre.
Et c'est vrai que le livre c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Bon, ça s'écrit pas en 2 minutes, donc on est en train de travailler dessus.
Pour les gens qui voudraient avoir plus de précision ou des échos de ces éco-habitats.
Notre site internet, c'est des vies et des idées d'ailleurs, tout attaché, .oefort.com.
Merci Jérôme Bouquemont de nous avoir ouvert les portes de ces 4 coins du monde.
Merci.
Carnet de voyage. Une invitation. Ooh, can't anybody see?